Le millefeuille revisité. Bonjour et bienvenue sur l'autre radio en compagnie de Christine. Pour ce 16e millefeuille, je vous propose de partir pour l'Europe du Nord, en Estonie très précisément, pour découvrir un roman que Nancy Houston, romancière qu'on a évoquée ici il y a peu de temps, a elle-même qualifié de chef-d'œuvre. Ce roman, il s'agit de Purge, et son autrice, c'est Sophie Oksanen.
Vous avez découvert l'immense livre de Solzhenitsyn, L'archipel du goulag, et ça a été une révélation pour vous. Vous vous êtes dit, oui, le verbe, la littérature peut nous aider à l'empathie et à comprendre la situation de l'autre.
Solzhenitsyn a vraiment été une révélation parce que pendant l'occupation soviétique de l'Estonie, il n'était pas possible de parler clairement des camps Sibérie, donc nous utilisions des euphémismes pour ce faire. Et ensuite, j'ai découvert Solzhenitsyn qui parlait tellement clairement et directement. Et c'est là que j'ai compris le pouvoir de parler directement. Et ce qui était important aussi, c'est que ces histoires valent la peine d'être écrites.
Oui.
Cela également m'a permis de comprendre l'importance de l'art également.
C'est donc Sophie Oksanen que nous venons d'entendre dans une interview réalisée le 15 novembre 2023 par Elisabeth Quin pour l'émission d'Arte 28 minutes lors de la sortie de son essai « Deux fois dans le même fleuve, la guerre de Poutine contre les femmes ». Mais sans plus attendre, je vous propose pour démarrer, pour ne rien changer aux bonnes habitudes, d'écouter un extrait du début de ce roman, Purge. 1992, Estonie occidentale. C'est toujours la mouche qui gagne. Alid Trou fixait une mouche du regard et la mouche la fixait aussi. Elle avait des yeux globuleux et Alid en avait la nausée, une mouche à viande, exceptionnellement grosse, bruyante et qui ne demandait qu'à pondre. Elle guettait pour aller dans la cuisine et se frottait les ailes et les pattes sur le rideau de la chambre comme si elle s'apprêtait à passer à table. Elle était en quête de viande et rien d'autre. Les confitures et autres conserves ne craignaient rien, mais la viande. La porte de la cuisine était fermée. La mouche attendait. Elle attendait qu'Alid se lasse de la traquer dans la chambre et qu'elle sorte, qu'elle ouvre la porte de la cuisine. La tapette fouetta le rideau de la chambre, le rideau ondula, chiffonnant les fleurs de dentelle et dévoilant furtivement les œillets d'hiver derrière la fenêtre. Mais la mouche se déroba et alla déambuler sur la vitre à une bonne distance au-dessus de la tête d'Alid. Du calme, elle en avait besoin maintenant pour garder la main ferme. La mouche avait réveillé Alid ce matin-là en se promenant tranquillement sur ses rides comme sur une route nationale, l'asticotant avec impertinence. Alid avait arraché sa couverture et s'était empressé de fermer la porte de la cuisine avant que la mouche ne parvienne à s'y glisser. Qu'est-ce qu'elle était bête, bête et méchante. Bien qu'Alid tentât depuis une bonne heure de lui régler son compte, la mouche était sortie victorieuse de chaque ronde et elle voletait maintenant au ras du plafond en bourdonnant grassement. Une mouche à viande dégueulasse, élevée dans une fosse à ordures. Elle finirait quand même par la voir. Elle allait se reposer un peu, la liquider et puis se consacrer à écouter la radio et faire des conserves. Les framboises l'attendaient et les tomates mûres et juteuses. Cette année, la récolte avait été particulièrement bonne. Alide rajusta les rideaux, la cour pluvieuse dégoulinait de gris, les branches mouillées des bouleaux frémissaient, les feuilles ratatinées par la pluie, les herbes oscillaient et de leurs pointes suintaient des gouttelettes. Et dessous, il y avait quelque chose, un ballot. Alide s'abrita derrière le rideau, elle jeta un œil à l'extérieur, tira le rideau de dentelle devant elle pour qu'on ne la voie pas de la cour et retint son souffle. Le ballot ne bougeait pas et il n'avait rien de spécial à part sa taille. Au niveau de la littérature étrangère, sur mes étagères, les livres de Sophie Oksanen sont entourés de ceux d'Anaïs Nin et d'Ito Ogawa. Alors oui, pour Anaïs Nin, il existe un lien indéniable entre ces deux autrices, puisque Sophie Oksanen elle-même cite Anaïs Nin comme une écrivaine importante à ses yeux. Et on comprend que ces deux femmes, libres, déterminées et d'avant-garde, sont faites du même bois, si je puis dire. En effet, Anaïs Nin est la première femme à publier des livres érotiques, et si elle est célèbre, c'est pour ses romans, mais surtout pour son journal intime, qu'elle tiendra jusqu'à la fin de sa vie, femme libre dans ses choix de vie comme dans ses amours. Pour Ito Ogawa, le lien avec Sophie Oksanen est plus ténu. Ito Ogawa est une romancière japonaise contemporaine qui, avec son roman « La papeterie Tsubaki », nous transporte dans l'univers des écrivains publics au Japon, activité qui se révèle être un art allant bien au-delà de la simple commande de lettres. Tout confère à donner le maximum de soin aux mots, aux messages transmis, au papier à lettres, mais aussi à la relation qui existe entre émetteur et destinataire. Alors, s'il est un lien qui existe entre Sophie Oksanen et Ito Ogawa, je dirais peut-être que c'est celui de l'attachement à la culture de leur pays natal. Et si on demande à Sophie Oksanen quels auteurs elle choisirait comme compagnon d'étagère, elle citerait, pour remonter à sa plus tendre enfance, l'histoire de Repons, un conte populaire allemand qui a été repris par les frères Grimm et qui a été son premier livre finnois. À l'âge de 6 ans, dit-elle, pour Noël, j'ai reçu comme cadeau un livre sur la légende de Repons et j'ai été fascinée par cette histoire. À cette époque, à la maison, je ne disposais que de livres soviétiques. Vous imaginez bien que l'on n'y trouvait ni princesse ni chevalier, mais plutôt des cosmonautes ou des leçons d'éducation, entre guillemets. Vers l'âge de 10 ans, elle se passionne pour les fictions historiques de Fredrika Runberg, une autrice finlandaise du XIXe siècle, une des premières journalistes et activistes de l'époque. Plus tard, nous l'avons entendu dans cet extrait de l'émission 28 minutes, l'auteur qu'elle citera comme une révélation pour elle, c'est Solzhenitsyn, avec l'archipel du Goulag, qui lui fait prendre conscience du pouvoir de la parole et de la littérature. À cet auteur, on peut ajouter deux autres grandes figures féminines de la littérature qu'elle admire, Virginia Woolf et Marguerite Duras, puisque nous avons déjà cité Anaïs Nin. Sophie Oksanen est une romancière, dramaturge et éditrice finlandaise. Elle est née en 1977 à Jyväskylä d'un père finlandais et d'une mère estonienne qui a fui son pays en 1970. Lorsqu'elle est enfant, elle passe un à deux mois par an dans sa famille maternelle en Estonie, à l'époque où ce pays fait encore partie de l'URSS. Très jeune, elle a donc été confrontée à deux cultures, celle de l'Ouest et celle de l'Est. Très tôt également, elle éprouve le besoin d'écrire et dès l'âge de 6 ans, elle commence un journal. Plus tard, elle étudiera la littérature et la dramaturgie à l'Académie de théâtre d'Helsinki. Purge est le premier roman de Sophie Oksanen qui est publié en France en 2010 et c'est celui qui nous l'a rendu célèbre. Mais en réalité, Purge était déjà son troisième roman. Le premier, Les vaches de Staline, a été publié en 2003 en finnois, dans sa langue d'écriture, et ce n'est qu'en 2011 qu'il paraît en France, aux éditions Stock. Les vaches de Staline est le premier livre de sa quadrilogie écrite autour de l'histoire de l'Estonie et de la Finlande. Dans ce roman, Sophie Oksanen évoque la question des immigrés estoniens de deuxième génération qui vivent en Finlande. Son titre fait référence au nom donné par les Estoniens déportés en Sibérie aux chèvres efflanquées qu'ils ont vues en Russie, car le régime soviétique à l'époque se targuait, lui, d'avoir des vaches exceptionnelles. Les livres de Sophie Oksanen sont aujourd'hui traduits dans plus de 50 langues. Et si on connaît davantage ses romans, elle est aussi l'autrice d'essais, de recueils de poésie et de livrets d'opéra. Elle a notamment écrit un livret intitulé « Innocence » qui a abouti à la création d'un opéra avec la compositrice finlandaise Kaija Saariaho. Cette œuvre, décrite comme un véritable thriller lyrique, avait enchanté le public du Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence en 2021. La place des femmes dans les bouleversements subis par les pays d'ex-URSS a toujours été une préoccupation majeure dans l'œuvre de Sophie Oksanen. Pour preuve, son dernier ouvrage, « Deux fois dans le même fleuve, la guerre de Poutine contre les femmes », paru en 2023, est un essai où elle analyse les violences faites aux femmes dans la stratégie du pouvoir russe. Un texte glaçant où elle y décrit notamment le viol de guerre utilisé en Ukraine pour, soi-disant, guérir de la décadence occidentale. Sophie Oksanen nous montre que la pratique systématique du viol contribue à détruire les familles et les communautés, ce sur plusieurs générations, et que ces méthodes criminelles ont depuis des décennies été perpétrées dans les pays d'Europe de l'Est par l'occupant russe. Si Sophie Oksanen est considérée comme une écrivaine engagée dans la défense des droits humains et de la cause des femmes, elle est aussi la première qui ait écrit sur la résistance et l'opposition menée par la population estonienne et finlandaise pendant les périodes d'occupation de leur pays. Aujourd'hui encore, en Estonie, la littérature parle peu de ce passé. À travers ses écrits, Sophie Oksanen manifeste la volonté de dire ce qui a été subi sous l'occupation, dire les violences dont ont été victimes les femmes et les traumatismes ainsi que les non-dits qui vont peser ensuite et se transmettre dans l'histoire des familles, mais aussi à l'échelle d'un pays.
Toi tu as grandi sans rêver de sirène, ton père te mettait des gifles et tu pensais je t'aime. Toi tu as toujours refusé qu'on t'apprivoise, et d'ailleurs on dit de toi que tu n'es pas courtoise. Toi tu t'es occupée de tous tes frères et sœurs, de ta mère aussi d'ailleurs quand elle était en pleurs. Toi tu as aimé un homme passionnément, mais tu ne sais pas pourquoi il est parti comme le vent. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine. Musicienne, ça fait des années qu'à l'école tu t'entraînes. Lui, il t'a dit, je suis désolée, mais à de ces malheureux, on ne peut pas plonger. Alors tu t'es arrêtée et tu l'as oublié. Mais tout au fond de toi, la musique, tu l'as gardée. Et parfois tu l'entends tout bas te chanter. Un air que la nuit, en secret, tu vas murmurer. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait. Souveraine. corps d'un homme. Mais depuis toujours, tu sens que c'est un décorum. Toi, tu as décidé que pour être libre, tu n'aurais pas d'enfant, ce serait ton équilibre. Et pour toutes celles dont les complexes vies ne seront racontées qu'autour d'un verre à minuit, que les voix s'élèvent, qu'on prenne les arènes, et que dans les nuits s'élève le chant des sirènes. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine.
Purge est le premier roman qui a révélé Sophie Oksanen en France. C'est un texte qu'elle a d'abord écrit pour le théâtre. C'était d'ailleurs sa première pièce, qui a été jouée au Théâtre National de Finlande en 2007. Nous l'avons vu, Purge est le troisième roman de Sophie Oksanen et il est paru en France chez Stock en 2010. Il est rapidement devenu un succès international. Ce roman a reçu de nombreux prix en Finlande ainsi que le Grand Prix de littérature du Conseil nordique, le Prix du livre européen et en France le Prix Femina étranger et celui du roman Fnac en 2010. En 2012, il sera par ailleurs porté à l'écran par Antti Jokinen, un réalisateur estonien. Purge compose une partie de la quadrilogie consacrée par Sophie Oksanen à l'histoire récente de l'Estonie, à savoir, pour ce roman, le passé d'occupation subi dans les années 40 par deux fois du fait de l'Union soviétique et une fois par l'Allemagne, ainsi que la dernière période d'occupation russe dans les années 60. Quelques mots sur le titre de ce roman qui en dit long sur ce qu'il relate. Purge, en finnois, se dit pudistus, mais ce mot, s'il rappelle bien sûr les purges du régime de Staline, et si Sophie Oksanen l'a choisi, c'est qu'il évoque aussi en finnois l'action de nettoyer, laver, désinfecter. Il rappelle ainsi ce qui se passe pour les victimes de viol qui éprouvent ensuite la nécessité constante de se laver le corps et les mains. L'histoire de Purge commence en 1992, alors que l'Union soviétique s'effondre et que l'Estonie vient de retrouver sa souveraineté. Nous sommes au cœur de la campagne estonienne, dans la maison d'une vieille femme, Alide, qui mène une vie rudimentaire, routinière, faite aussi de méfiance, alors que surgit dans son quotidien, dans son jardin, Zara, une jeune femme en fuite. Le cœur de ce roman va consister en la rencontre de ces deux femmes de générations différentes, deux femmes victimes de violences et dont Sophie Oksanen va tisser, entrelacer le passé respectif ainsi que leur présent, créant ainsi un réel suspense. Avec cette trame, Sophie Oksanen nous raconte ces années où la population vit sous le joug de l'occupant, violenté dans son corps mais aussi dans sa langue et dans sa culture. Compromission, collaboration, côtoie, résistance et actes de courage. Dans ce contexte où malgré tout, la vie, ou disons la survie, doit s'organiser et où des passions amoureuses naissent. Le succès international de Purge a d'abord été incompris par les Estoniens qui s'étonnaient que de si nombreux lecteurs s'intéressent à l'histoire de leur petit pays. Mais depuis le début de la guerre en Ukraine, il semble, d'après Sophie Oksanen elle-même, qu'ils comprennent mieux la nécessité de faire parler d'eux et de leur passé d'occupation par les Russes. Comment j'ai découvert ce livre ? Ce livre, c'est un cadeau qui m'a été fait et je dois l'avouer, j'en mesure encore aujourd'hui tout le plaisir que j'ai eu avec cette découverte. Je pourrais parler de révélation, tant le sujet, le récit, l'écriture m'ont plu. Mais je pourrais parler aussi de rencontres continuées, comme le dit Charles Pépin, car cette rencontre avec Sophie Oksanen, je la poursuis. Je reconnais que je n'ai pas tout lu de son œuvre, mais Purge et Deux fois dans le même fleuve, la guerre de Poutine contre les femmes sont deux ouvrages fondamentaux à mes yeux. Et je suis certaine que celles et ceux qui avaient déjà lu Purge se souviennent des premières pages, l'intranquillité d'Alide et la présence de cette mouche qui vole et rôde de pièce en pièce comme une menace pointant dans la suite de l'histoire. Mais est-ce celle d'un passé lancinant ou d'un quotidien qui va basculer vers des jours plus sombres ? Je ne dévoilerai rien de l'intrigue de cette rencontre entre Alide et Zara, mais je vous propose d'écouter un second extrait de Purge, où nous retrouvons Zara à Berlin en 1991, alors qu'elle est contrainte à la prostitution. 1991, Berlin, le prix amer des rêves. Tout d'abord, Pacha expliqua à Zara qu'elle avait une dette envers lui. Quand elle l'aurait réglée, elle pourrait partir. Mais d'abord, le paiement. Et elle ne pourrait payer qu'en travaillant pour Pacha et en le faisant efficacement, ce travail qui payait bien. Zara ne comprit pas de quoi elle était en dette. Néanmoins, elle commença à compter combien elle avait payé pour son prêt, combien il lui restait à rembourser, combien de mois, combien de semaines, de jours, d'heures, combien de matins, combien de nuits, combien de douches, de pipes, de clients. Combien de filles elle verrait. De combien de pays. Combien de fois elle se mettrait du rouge à lèvres et combien de fois Nina lui ferait des points de suture. Combien de maladies elle choperait. Combien de bleus. Combien de fois sa tête serait enfoncée dans la cuvette des WC et combien de fois elle pourrait être sûre qu'elle se noierait dans le lavabo, la main de fer de Pacha sur la nuque. La marche du temps peut se mesurer à autre chose qu'aux aiguilles et son calendrier se renouvelait sans cesse car de nouvelles pénalités tombaient tous les jours. Pacha la félicita et affirma que sa dette était vraiment en train de diminuer significativement. Zara voulait croire au cahier de Pacha, qui avait une couverture plastique bleu foncé qui puait et une marque de qualité de l'Union soviétique. Les chiffres et colonnes, à la précision scrupuleuse, rendaient les promesses de Pacha d'autant plus crédibles qu'il était assez facile de s'y fier dès lors qu'on le voulait bien. Et le seul moyen d'aller de l'avant était de s'y fier. L'être humain doit avoir confiance pour s'en sortir et Zara décida de croire que le cahier de Pacha était son passeport pour la liberté. Une fois qu'elle serait libre, elle se procurerait un nouveau passeport, une nouvelle identité, une nouvelle histoire. Un jour, ça se passerait comme ça. Un jour, elle se reconstruirait.
Living
Résonance. Des résonances à ce roman, Purge, il y en a, elles ne manquent pas. Mais au niveau de la littérature, pour moi, Purge résonne avec deux romans. Désolé, je n'ai pas pu choisir, alors je vous parlerai des deux. Le premier, qui sera bientôt rangé dans la bibliothèque, juste à côté des livres de Sophie Oksanen, étrange coïncidence, mais c'est dire que sa lecture est très récente pour moi. Le premier, donc, c'est le roman d'Olivier Norek, Les guerriers de l'hiver. Un roman qui nous remet en mémoire, voire nous révèle, une page de l'histoire de la Finlande. La guerre déclenchée par l'Union soviétique de Staline en novembre 1939, avec l'invasion de la Finlande, une guerre censée se dérouler en 3 jours, qui nous en rappelle une autre, sauf que c'était sans compter sur l'incroyable résistance des Finlandais, ces paysans envoyés au front pour sauver leur pays. Olivier Norek remet en lumière ces combattants de la population civile, avec notamment la figure emblématique d'un tireur d'élite finlandais, Simo Haja, devenu une légende vivante sous le pseudo de la Mort Blanche. Ce roman est un véritable roman de guerre qui nous fait vivre au quotidien dans ce groupe de combat de la 6e compagnie, réunissant les hommes d'un même village, Rojärvi. On y découvre le rôle des Lota, ces femmes engagées volontaires, les stratégies menées par les conseils de guerre des deux camps, la folie meurtrière de certains décisionnaires et les tergiversations des instances de pouvoir européennes dont les Finlandais attendaient beaucoup plus que des promesses. Il nous raconte cette épopée qui se déroule au milieu des forêts, des lacs gelés, de la neige omniprésente et des températures de moins 50 degrés. Et l'état d'esprit de ces combattants finlandais improvisés et confrontés à l'acte de tuer. Pour vous inviter à lire ce roman, quoi de mieux alors que de vous en lire le second prologue. Longtemps, la Finlande appartint à d'autres. Pendant des siècles, elle fut une partie du royaume de Suède. Et pour un siècle encore, elle passa sous la souveraineté de la Russie. Elle dut attendre 1917 pour gagner son indépendance. En 1939, ce pays avait donc 22 ans. Mais 22 ans ne font pas un homme, encore moins une nation. Dans une tempête de plomb et de feu, l'armée rouge de Staline, la plus grande armée du monde, déferla sur cette nation neutre et mal armée, dans un conflit que l'histoire appellera la guerre d'hiver. Les terribles événements qui font le sujet de ce roman se sont produits à cette date, en Finlande, à Kola, mais aussi sur son isthme, en Carélie, dans ses glaces, à Petsamo, des côtes de son golfe jusqu'aux confins de sa Laponie. Imaginez un pays minuscule. Imaginez-en un autre, gigantesque. Imaginez maintenant qu'ils s'affrontent. 20 millions d'obus. Et la terre manqua de s'ouvrir en deux lorsque la Russie en frappa l'écorce au même endroit, chaque jour, pendant plus de 100 jours. Des colonnes de chars contre de vieux fusils. 1 million de soldats rouges contre des ouvriers et des paysans. Mais les conflits passés racontent qu'il faut 5 soldats entraînés pour affronter un homme seul qui se bat pour sa terre, sa patrie et les siens, les mains accrochées à sa carabine, sentinelle derrière la porte de sa ferme barricadée. Et un homme seul peut changer le cours de l'histoire. Au cœur du plus mordant de ses hivers, au cœur de la guerre la plus meurtrière de son histoire, la Finlande vit naître une légende. La légende de Simo Aja, la mort blanche. Il y avait pourtant eu des jours heureux, une paix chérie. Il y avait eu un avant, un peu avant l'enfer. Le second roman, qui me paraît être un écho à Purge, même si le ton et l'écriture sont très différents, je pourrais dire un roman en résonance car complémentaire, c'est le livre d'Andrei Kourkov, Les abeilles grises. Andrei Kourkov est le plus célèbre écrivain ukrainien. Il a écrit ce roman en 2019, mais il a été publié en France en février 2022, à la veille donc du 24 février 2022, date de l'invasion russe en Ukraine. L'histoire se déroule avant cette date, dans le Donbass, au milieu des lignes de front, dans un petit village déserté de la zone grise, coincé entre les séparatistes russes et l'armée ukrainienne. C'est dans un paysage recouvert, lui aussi, d'une épaisse couche de neige ponctuée de checkpoints, de barbelés et de casemates que survit Sergeïtch, apiculteur, entièrement dévoué au sort de ses abeilles, avec pour seul voisin Pashka, celui que Sergeïtch définit comme son « ami ennemi ». À l'arrivée du printemps, il décide de charger ses 6 ruches dans sa voiture pour emmener ses abeilles loin des tirs et des bruits de la guerre, à la recherche de prairies en fleurs. C'est le début d'un long périple à travers les routes minées et les postes frontières, un voyage haletant, nourri de rebondissements, de campements improbables, de rencontres, notamment avec 2 personnages féminins touchants et lumineux. Ce roman a la couleur d'un conte, fait de bonheur fragile, de poésie et de situations cocasses dans un quotidien où la cruauté peut surgir à tout moment. On pourrait le résumer à une ode à la nature et à la fraternité dans l'absurdité de ce monde. Alors, je vous propose d'écouter également un extrait de ce roman. Au moment où Sergeïtch décide de quitter sa maison pour emporter ses ruches dans une région plus calme, et c'est Antoine qui nous propose cette lecture.
Se préparer au voyage se révéla cette fois-ci une tâche aussi lente que malaisée. Alors même que Sergeïtch possédait en la matière une expérience plus solide que tout autre. Mais il y a préparatif et préparatif. Sa gigoulie était spacieuse. Il n'était donc pas tenu de limiter son volume de bagages. En outre, avec ses nouveaux tirs d'artillerie, un obus pourrait bien tomber sur la maison numéro 37. Et alors, tout ce qu'il n'aurait pas emporté serait réduit en cendres. 3 pulls, 2 pantalons, des bottes en caoutchouc, une brassée de chaussettes d'hiver comme d'été, une veste de pêcheur en grosse toile. En premier lieu cependant, ce sont 2 livres tirés du vaisselier qu'il posa au fond du sac. Nikolaï Ostrovski avec ses dollars et Guerre et Paix avec ses rivnia. Il fit démarrer la voiture. Pendant que le moteur se ranimait après une longue période d'inactivité, son propriétaire remplit 3 jerricans d'essence au moyen d'un tuyau relié à un tonneau métallique. comme il sortait la Tchetvyorka verte du garage donnant sur la cour, la pluie se mit à tomber à grosses gouttes. Quand Sergeïtch jetait un coup d'œil au nuage, les gouttes venaient frapper ses yeux grands ouverts, et il eut l'impression que la pluie était salée. C'est que les gouttes lui tombaient aussi sur les lèvres, sur la langue, comme si c'était des larmes célestes et non la pluie, comme si le ciel pleurait sur lui, car même le ciel ignorait s'il reviendrait jamais ici. Et s'il revenait, quand? Et s'il revenait, retrouverait-il tout dans le même état qu'à présent? Sous le martèlement de la pluie, Sergeïtch observa les murs, les arbres, les clôtures de son petit monde familier, où il avait jusqu'alors enduré ses malheurs et ses problèmes, jour après jour, nuit après nuit. Tout cela, arbres, portillons, portes, fenêtres, l'avait toujours protégé comme un rempart, comme un gilet pare-balles. Alors qu'il pensait qu'au contraire, c'était lui qui protégeait sa maison, sa cour, son univers. Mais non, il se trompait. Ce n'était qu'à présent, à l'heure où il se trouvait contraint de partir, qu'il le comprenait.
Une citation de Sophie Oksanen. L'art et la littérature sont un moyen de rendre les événements historiques extrêmes plus accessibles et compréhensibles. L'arbre et ses racines. Les racines ont plusieurs rôles déterminants dans la vie d'un arbre. Bien sûr, tout d'abord, elles concourent à sa stabilité dans le sol et lui évitent de basculer. On connaît aussi leur rôle dans l'absorption de l'eau, des minéraux, de tous les nutriments nécessaires au développement de l'arbre. Ce sont également des points de contact, d'échange importants avec les autres congénères. Ce que l'on sait moins, c'est que le système racinaire participe en même temps à la fabrication du sol, car elles permettent à certains arbres de s'installer dans des terrains presque dénués de substrat. Et mieux, les racines contribuent à stabiliser des sols en zone côtière. Si les racines d'un arbre représentent souvent plus du double de la superficie de sa couronne, ou si vous préférez, de la superficie de l'ensemble des branches situées au sommet du tronc, il est toujours difficile d'évaluer exactement l'étendue du système racinaire et sa profondeur. Encore aujourd'hui, selon la botaniste Claire Adjet, nous manquons d'outils performants pour détecter la présence des racines dans le sol et suivre ainsi le développement de la plante entière in vivo. Il reste donc encore des énigmes dans l'organisation des systèmes complexes que sont les arbres, une raison de plus pour les protéger et qu'ils nous en apprennent encore. À bon entendeur, salut. Merci à Antoine pour sa contribution et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Millefeuille revisité, toujours sur l'autre radio.